Oui, alors le Volapük, c'est un espace de création contemporaine qui est situé dans le quartier Blanqui, au 12 bis rue Laubin, en perpendiculaire de la rue Mirabeau, pour aider les gens. Donc du coup, c'est un espace de création qui est dédié aux compagnies émergentes. Du coup, toute l'année, on organise et on accueille en résidence des compagnies et on a aussi certains partenariats. Donc, comme par exemple, là, j'ai le papier sous le nez, le festival Écoute Voir qu'on va accueillir par exemple au mois de janvier. Voilà.
J'ai promis que je te poserai pas la question, mais Volapük, faut quand même le préciser, c'est une langue à la base, une langue internationale qui a été inventée au 19e siècle. Voilà, alors c'est vrai que pour le coup, on peut se demander pourquoi ce nom, mais j'avais promis que je poserai pas la question. Alors du coup, je me tourne maintenant vers Laurent, puisque Laurent est typiquement un artiste, ou en tout cas le collectif Nose, tu vas peut-être pouvoir préciser tout ça. C'est typiquement un artiste que vous hébergez ou en tout cas que vous avez en résidence, que vous appelez résidence, c'est ça?
Ouais, c'est ça. C'est
Alors,
ça.
du coup, Laurent, est-ce que tu peux nous expliquer comment marche un peu votre collaboration entre le Volapük et le collectif?
Oui, tout à fait. Alors, en fait, le collectif Nose, donc nous, on est un collectif théâtral qui est basé à Sully-sur-Loire. Et là, dans le cadre de notre prochaine création, qui est le Bureau national des halogènes de Stanislas Coton, on est accueilli par le Volapük pendant une semaine. C'est-à-dire qu'ils mettent à notre disposition le plateau pour qu'on puisse travailler. Aussi, un soutien qui est notamment un soutien technique, qui est très apprécié puisque on a besoin de ce soutien-là pour pouvoir créer dans les meilleures conditions possibles. Et aussi, ils mettent à notre disposition des logements pour que toute l'équipe présente puisse dormir, puisqu'une création, on a tendance à voir que la partie immergée de l'iceberg, et c'est beaucoup, beaucoup de travail avec une grosse équipe.
Et beaucoup de logistique aussi pour le coup.
Ah oui, énormément, énormément.
Alors justement, on reviendra sur le collectif un peu plus tard et puis sur la pièce que vous proposez le 9 décembre d'ailleurs, c'est samedi.
Tout à fait.
Bon, on y reviendra un peu plus tard dans l'émission. D'abord, est-ce que tu peux, Aurélie, nous dire comment s'est créé un peu le Volapük et ça date de 2006, c'est ça, la création du Volapük?
Alors, non. En fait, déjà, le Volapük, c'est le lieu, donc c'est les murs, c'est le bâtiment. À l'intérieur du Volapük, il y a deux associations. Il y a l'association Théâtre Accru, c'est une compagnie de théâtre. Et il y a l'association VPK. Donc, en fait, l'historique de ce lieu et de l'association VPK, c'est que, en fait, Théâtre Accru est arrivé dans ses locaux. VPK n'existait pas encore et du coup cette compagnie devait travailler ses créations sur le plateau du Volapük. Et en fait au fur et à mesure ils ont commencé à ouvrir ce plateau aux compagnies de la région, etc. Et ça a donné lieu à la création de VPK en fait pour justement spécialiser. Enfin, l'association est spécialement dédiée aux résidences. Donc ça s'est développé comme ça et c'est devenu vraiment une vraie association.
Et ça remonte à quand ça en termes
2008 en fait.
2008, d'accord, donc
Voilà.
2 ans après.
Voilà. Théâtre Accru arrive en 2006 et VPK a été créé en 2008, donc ça va faire 10 ans.
Alors, je me suis évidemment rendu sur votre site internet. D'ailleurs, première question, peut-être toute bête, mais pourquoi c'est écrit en travers sur le site internet, un peu en penché? Est-ce que c'est de façon rappelée un peu de l'art ou
Non, c'est la charte graphique
c'est
qui
la
a
charte
été
graphique?
élaborée depuis le début, ouais.
Ouais, c'est comme ça depuis le début.
Ouais.
D'accord.
Enfin,
Non, mais
depuis le début du site, quoi.
c'est original en tout cas. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de
Merci.
tomber sur un site écrit comme ça, un peu en biais. Bon, c'est lisible, hein,
Bah
je
oui,
rassure
ça va. Je t'ai pas
les
pris en
éditeurs.
torticolis.
Non, non, non. En tout cas, pas encore. J'y ai peut-être pas passé assez de temps aussi, mais ça, c'est un autre débat. Du coup, en fouillant sur le site, j'ai vu cette phrase. Le Volapük propose un espace intermédiaire de création et de réflexion ouvert aux artistes et dédié aux écritures contemporaines. Qu'est-ce que ça signifie un peu cette phrase?
Alors,
C'est vraiment ce qui détermine finalement l'objectif du Volapük?
ouais, c'est sa ligne directrice en fait. Les écritures contemporaines, ben, en gros, c'est plus vraiment, enfin, c'est ça, mais c'est surtout en fait, nous, on travaille avec les compagnies émergentes et par exemple, on est en partenariat avec les jeunes qui sortent du Conservatoire Théâtre de Tours. Donc c'est plus un accompagnement, oui, à la création contemporaine, mais lieu d'expérience. C'était quoi ? Lieu de laboratoire d'expérimentation ?
C'était, alors que je reprenne ma phrase, mince, tu me poses une colle, propose un espace intermédiaire de création et de réflexion ouvert aux artistes et dédié aux écritures contemporaines.
Voilà, donc c'est un espace intermédiaire parce que du coup, on n'est pas une compagnie, le VPK, et on n'est pas un lieu de diffusion. On est un espace entre, du coup, ces deux structures en fait, la compagnie et le lieu de diffusion. Nous, on propose en fait des résidences, donc c'est des compagnies qui viennent travailler sur des parties de création, sur de la recherche. Et quand on fait une représentation de travail, la plupart du temps, c'est pas la fin de la création, c'est une partie du travail. Donc on est un laboratoire d'expérimentation où on confronte en gros la compagnie et un public qui vient... à la fin, donner son ressenti sur ce qu'il a vu, etc. En fait. Voilà.
Alors du coup, Laurent, je me tourne vers toi. Pourquoi travailler dans le cadre du Volapük et pourquoi travailler avec eux ? Est-ce que c'est une question qui se pose ? Est-ce que tu te l'es toi-même posé ? Comment ça s'est passé un peu avant que vous travailliez ensemble ?
Ça s'est passé que ça fait quelques années déjà qu'on a envie de venir travailler au Volapük, parce que le Volapük, c'est un lieu qui est identifié par notamment les partenaires institutionnels culturels, et donc c'est un lieu où potentiellement on sait que si on montre quelque chose, il y a des chances que des professionnels viennent, ce qui n'est pas dit, ce qui n'est pas donné dans d'autres lieux. C'est-à-dire qu'on a pu travailler dans... On fait beaucoup, beaucoup de résidences, ça fait partie intégrante du processus de création. Sachant qu'une création, pour que le spectacle prenne forme, etc., etc., ça prend à peu près, on va dire, ça dépend des metteurs en scène, mais au minimum un mois et demi, deux mois. Donc là, on a une semaine de résidence et on en est très content.
On parle de théâtre. Hein,
on parle de théâtre, ouais, tout à fait. On parle de théâtre. Et donc, du coup, voilà, le Volapük, ça fait plusieurs années qu'on a envie d'y venir. Et là, on a proposé ce projet, donc le Bureau National des Halogènes, et le Volapük nous a répondu favorablement. Voilà.
Oui, parce alors, que, du coup, à savoir oui. qu'en fait, les compagnies, elles sont sélectionnées par le biais d'appels à projets.
C'est ça, voilà, c'est la question, c'est là où je voulais en venir, comment vous sélectionnez un peu. Donc, c'est un appel à projet.
Voilà, trimestriel.
Trimestriel. Mm. Et vous accueillez combien d'artistes et de compagnies en même temps là, en ce moment, il y a combien de résidents
Nous, on a un plateau, donc ouais. on a une boîte noire, donc on peut accueillir qu'une compagnie par...
D'accord.
À la fois, quoi.
Et alors, du coup, c'est pour un laps de temps défini ou pas spécialement?
Alors, en fait, depuis cette année, plus maintenant, mais avant, c'était des semaines de... Enfin, c'était une semaine, en fait. Deux maximum, quand on avait des partenariats. Maintenant, en fait, on a retravaillé le projet et il va y avoir des semaines, une semaine, enfin, des résidences de une semaine, des résidences de trois semaines à un mois et une résidence longue d'accompagnement, on appelle ça, qui commencera au mois de septembre 2018. Et qui accompagnera sur toute une création une compagnie qui sera sélectionnée par appel à projet aussi.
Et qui est-ce qui décide ? C'est toi ? Qui est-ce qui décide
Alors, il y a une instance de décision qui s'appelle le groupe de réflexion. Il est constitué de professionnels de la culture et du social de la région. Et en fait, c'est ces personnes-là qui étudient les candidatures et qui sélectionnent les projets.
Je viens de me rendre compte que je ne t'ai pas demandé ton rôle au sein du Volapük. J'aurais peut-être dû commencer par là, mais bon, mieux vaut tard que jamais. Hein. Est-ce que tu peux nous préciser finalement, toi, ton rôle au sein du Volapük ?
Du coup, je suis la coordinatrice.
Voilà, coordinatrice, ok. Mm. Très bien. Alors, vous ne faites pas que des accueils en résidence, vous faites aussi des ateliers, rencontres, présentations de travaux d'artistes. Etc. Est-ce que tu peux nous parler aussi de tout ça, notamment les ateliers, rencontres, etc. Comment ça se passe concrètement ?
Alors,
ces rencontres avec les artistes, c'est
alors,
quoi ?
Alors, vu que du coup c'est des sorties de résidence, souvent, à la fin de la représentation, il y a une rencontre avec la compagnie et un échange en fait. Donc le public a le droit de poser des questions sur ce qu'il a vu, etc. Donc il y a un échange entre les deux. Après les ateliers, ça c'est quelque chose qu'on va mettre en place sur 2018. Et on va certainement travailler avec le bocal de Courteline. Donc ça c'est encore en train d'être mis en place. Et par exemple là on travaille avec le centre socioculturel Lilo Mirabeau, où justement il va y avoir une sensibilisation au théâtre avec le collectif Nos qui va venir présenter le début de sa création au centre socio-culturel samedi. Voilà.
Si j'ai bien compris, du coup, le collectif Nos, par votre pièce de théâtre, vous êtes confronté via le Volapük, en tout cas, au regard du public et vous les rencontrez aussi, le ouais. public. Est-ce que c'est important aussi pour vous, en tant qu'artiste, comédien, d'être confronté à votre public de façon directe comme ça?
Bah, en fait, sinon, ça n'a aucun sens, en fait. Sinon, ouais. on ferait. Ouais, ouais. Si même. Après, ça peut être assez intimidant, puisque dans le processus de création, on se remet vachement en question, on doute, on met beaucoup de nous au plateau, donc ça peut être hyper dur et hyper déstabilisant d'avoir des regards critiques, d'avoir des réflexions, etc. Après, je pense que c'est une question de posture. C'est-à-dire que là, on sait qu'on est en création, on sait que ce qu'on va présenter n'est pas complètement fini, mais malgré tout, on est suffisamment, on va dire, content de notre travail pour quand même oser le montrer à des gens. Et ce qui est intéressant, c'est justement avoir ces retours-là, puisque ça nourrit la création. Mmh. Et de toute manière, l'objectif du spectacle vivant, c'est de présenter un projet, de présenter une œuvre à un public. Et le projet sans public ne se fait pas. C'est-à-dire que c'est vraiment, même quand on joue au théâtre, quand on joue plusieurs soirs d'affilée, on n'a jamais le même public. Et de la manière dont le public va réagir, le spectacle va prendre une autre couleur, va y avoir des moments qui changent, etc. Donc, le spectateur fait partie du spectacle à part entière, de toute manière.
Et est-ce qu'il vous fait progresser, ce public-là? Est-ce que vous changez aussi peut-être la pièce un peu? Bon, évidemment pas dans les grandes lignes, j'imagine, mais peut-être quelques détails en fonction de ce que peuvent vous dire les personnes qui ont assisté à votre pièce?
Ouais, parce que... Oui, évidemment. Oui, on est ouvert à ça. En fait, quand on a le nez dans quelque chose, quand on est dans une création, on prend des réflexes. Il y a des choses qui, du coup, nous touchent moins ou qu'on perd de vue parce qu'on a une vision qui est... plus global, parce qu'aussi on a des obsessions du moment comme tout le monde, et que du coup on a tendance à se focaliser sur certaines choses, et donc évidemment des fois on a certains retours qui nous font prendre conscience de choses qu'on savait souvent déjà, mais qu'on avait presque perdu de vue, c'est souvent ça. Et puis c'est intéressant aussi d'avoir d'autres sensibilités, puisque pour une même proposition il y aura différents ressentis. Après, ça veut pas dire qu'à chaque fois qu'on nous fait une critique, on change radicalement le projet, puisque là c'est la fin des haricots, hein, et oui. Il nous faut des années de résidence avant d'aboutir à une création finale. Mais en tout cas, c'est des choses qu'on entend et auxquelles on réfléchit en équipe, justement.
Aurélie, Laurent, est-ce que vous êtes toujours avec moi?
À fond.
À fond, super. Alors, il faut être à fond parce que c'est l'heure du quiz. Arthur, est-ce que tu peux nous mettre le jingle du quiz, s'il te plaît? Si tu nous trouves ça... Non, ça c'est le jingle de l'émission. C'est la deuxième piste, Arthur. Voilà, super.
Oh yeah.
Première question. Alors, avant de la poser d'ailleurs, je vais... Parce que je me suis creusé la tête, je me suis dit sur quel sujet on va pouvoir les interroger. Le Volapük, on l'a dit, c'est une langue qui a été créée pour unifier un peu les peuples, un peu comme l'espéranto. Alors du coup, c'est un quiz, pas de bol, sur le Volapük et l'espéranto de façon plus générale. Première question. Non, c'est pas si terrible. Enfin, c'est pas si terrible. Ça, je sais pas d'ailleurs, on verra ça tout à l'heure. Quand a été créée la langue le Volapük? J'ai donné un indice tout à l'heure. J'ai pas donné la date exacte, mais j'ai donné un indice. Est-ce que vous le savez?
Moi, je m'en souviens, ouais.
Alors, du coup?
Non, j'ai l'indice en tête. Ouais, pas de problème.
Alors, c'est...
19e, non, c'est pas ça que tu
disais?
Ouais,
c'est ça. Ouais. Et en fait, fin 19e, 1879, par Johann Martin Schleyer, c'était un prêtre catholique allemand, voilà, qui a créé cette langue, donc le Volapük, une langue censée unifier, évidemment, les peuples autour de... Un peu comme l'anglais, hein, je vais dire un peu de façon caricaturale. À combien estime-t-on les Volapukistes en 2015? Donc les personnes, les personnes qui parlent le Volapük.
En 2015?
Combien d'après vous?
Est-ce que vous avez les chiffres pour 2012?
Peut-être en 2015?
Ouais, en 2015. C'est pas beaucoup, hein, c'est vraiment très peu. Hein.
15.
Ah, pas loin. Pas loin.
20.
Non, on est à 30, en tout cas entre 20 et 30. Oui, c'est vrai que c'était presque ça, entre 20 et 30. En tout cas, personne estimée qui parle cette langue. Donc, évidemment, langue. Et
est-ce que c'est la même famille ou est-ce que c'est. Comment ça se passe en fait? Est-ce que c'est un club, une association de volapukistes?
J'en ai aucune idée. C'était pas précisé dans, sur les sites où j'ai recherché l'info, mais en tout cas, une trentaine de personnes.
D'accord.
Troisième question, c'est un extrait que je vais vous passer. Et je veux juste savoir qui parle. il parle, enfin, cette personne évoque le Volapük à la fin. Arthur, est-ce que tu veux bien nous mettre l'extrait vidéo, s'il te plaît ?
Italien, allemand et français, ils n'auraient pas beaucoup servi l'Europe s'ils avaient été des apatrides et qu'ils avaient pensé et écrit en quelques espéranto ou Volapük intégré.
Alors, qui est-ce ?
Je connais cette voix en plus.
Hyper
perturbant.
C'est un grand homme politique français. Ouais, on ne peut pas faire plus grand.
C'est le général.
Évidemment.
C'est le général de Gaulle.
C'est le général de Gaulle donc, qui se moque, là, pour le coup, de l'espéranto et du Volapük.
Avec beaucoup d'humour. Hein.
Avec beaucoup d'humour. Dernière question. Par rapport à l'espéranto, à quelle date a été créé l'espéranto, donc une langue européenne, pour le coup, qui est parlée par beaucoup plus de personnes encore aujourd'hui, à l'heure actuelle ? Pareil, une langue comme le Volapük qui est censée fédérer les peuples. En quelle année a-t-elle été créée ?
C'est une réponse directe, on n'a pas de choix multiples à proposer.
Je fais un choix multiple. Cool. Alors, on va 1850, 1887, 1905 ou 1945.
Ah ouais. Bah, je dirais 1945. Après la 1945. Guerre, ça a du sens, ouais. Un truc, une espèce d'élan, non ?
Eh bien non, en 1887, le 26 juillet 1887, par un certain Ludwig Leiser Zamenhof.
Un prêtre catholique allemand.
Non, mais non. En tout cas, on constate que du coup, les deux langues ont été créées grosso modo au même moment, quoi. Et l'espéranto a pris un peu la place du Volapük à l'époque en termes de langue censée fédérer les peuples. Bon, voilà, c'était le petit quiz sur le Volapük. Maintenant, on peut parler de choses plus sérieuses et notamment. Vous avez fait un crowdfunding. Est-ce que tu peux nous en parler, Aurélie? Comment ça s'est passé et pourquoi déjà avoir fait un crowdfunding?
En fait, du coup, cette année, on s'est retrouvés au mois de juin avec une mauvaise nouvelle. La DRAC se désengageait de notre projet en 2017. Donc du coup, c'était une... Le financement de la DRAC était une grosse partie de notre budget à l'année. Donc on s'est retrouvés dans une situation où on ne savait même pas si on allait terminer l'année avec VPK. Donc on a du coup souhaité mettre en place un crowdfunding pour demander l'aide de notre public et de toutes les structures culturelles autour de nous. Et donc du coup, ça a vachement bien marché. On a récolté, là je sais plus à combien on est, 3000...
Il me semble 3445.
Ouais, pour 5000 euros
de demander.
Ouais. Sauf qu'entre-temps, on a gardé contact avec la DRAC et on l'a rencontré il y a pas trop longtemps. Et en fait, la DRAC a souhaité, en fait, vu la situation dans laquelle elle nous avait mise, nous aider. Donc
champagne.
On est revenu sur... ouais, voilà.
Bonne nouvelle, champagne.
Donc ça a été une super... quand même pas le budget. C'est quand même une super bonne nouvelle parce que la DRAC nous a aidés pour le projet 2017, donc financièrement c'est cool, mais aussi parce que du coup c'est quand même un de nos partenaires très importants et ils nous suivent pour les années prochaines aussi, parce que le genre de structure comme la nôtre, donc une association, vu qu'on n'est pas une compagnie, on n'est pas un lieu de diffusion, on est quand même dans... On ne rentre pas forcément dans des cases d'aide, de subvention. On est considéré comme lieu intermédiaire. Et du coup, c'est quelque chose qui n'est pas encore beaucoup reconnu dans le secteur culturel, en fait. Donc du coup, en fait, vu qu'on a reçu cet argent de la DRAC, on a souhaité quand même jouer de la transparence avec les contributeurs de la campagne de crowdfunding. Et on leur a proposé soit de nous laisser l'argent qu'ils nous avaient donné pour le rebalancer sur des actions culturelles pour l'année prochaine, ou soit être remboursé, en fait. Voilà.
Alors, est-ce que tu peux juste préciser la DRAC, ce que c'est, et le rôle un peu qu'elle a, elle ?
Oui, donc c'est la Direction Régionale des Affaires Culturelles, c'est à Orléans. Et en fait, c'est une décentralisation du ministère de la Culture qui... aide l'art et la culture dans la province, en fait. Donc chaque région a sa DRAC. Voilà.
Est-ce qu'on peut aussi évoquer les autres partenaires du Volapük? Parce que j'imagine que vous en avez. Il n'y a pas que la DRAC qui vous soutient, en tout cas financièrement. Est-ce que tu peux nous en parler?
Oui, alors en fait, c'est sûr qu'on n'a pas que la DRAC, on a aussi la ville de Tours, donc Tours Métropole, qui est derrière nous depuis bien longtemps. On a la région Centre, Val-de-Loire, et on a le département d'Indre-et-Loire. Donc on a tous ces partenaires qui nous ont vraiment soutenus, même cette année, pour cette année difficile, et ils ont été derrière nous. Donc c'est cool.
Du coup, maintenant, puisque la DRAC vous soutient à nouveau, j'imagine que c'est l'épée de Damoclès un peu, elle disparaît. Comment vous envisagez maintenant la saison 2018, l'année 2018? Est-ce que ça libère un peu des opportunités?
En fait, cette année 2017, elle a été un peu compliquée parce que donc la DRAC s'est désengagée aussi parce qu'on était en train de restructurer l'association. Donc on a fait un DLA, c'est un dispositif local d'accompagnement qui permet de d'analyser les forces, les faiblesses d'une association et de lui permettre de faire ressortir une problématique et de pouvoir aider l'association à aller mieux en fait. Et ce qui est ressorti de ce DLA, c'était de restructurer un petit peu les grandes orientations du Volapük. Et en fait, ça va prendre effet en 2018 là. Donc en rallongeant les résidences, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, en faisant des résidences courtes, moyennes et longues, mais aussi en développant nos actions culturelles et la rencontre entre le public et les artistes, mettre en place des ateliers, comme c'est stipulé sur notre site internet. Et voilà, continuer à développer nos partenariats et aider au mieux les compagnies qui viennent en résidence.
Alors justement, les compagnies qui viennent en résidence, le collectif Nose, Laurent, tu peux nous en parler, puisque vous faites en fait le prochain événement du Volapük, c'est samedi, le 9 décembre, et c'est une pièce de théâtre. Alors je vais te laisser en parler un peu de cette pièce de théâtre que vous allez proposer samedi.
Alors la pièce s'appelle le Bureau national des halogènes, sans H, donc c'est pas les halogènes, les réverbères, je tiens à le préciser. En fait, c'est deux monologues, donc c'est une pièce de Stanislas Coton, qui est un auteur contemporain, toujours vivant. Et donc c'est deux monologues, un monologue d'un agent de l'OFPRA, donc c'est pas exactement l'OFPRA puisque c'est le Bureau national des halogènes. Donc l'OFPRA, c'est l'Office de protection des réfugiés et apatrides qui sont en charge d'attribuer ou non les demandes d'asile. Et le monologue d'un de ces réfugiés qui est donc Hacha Manu. Donc en fait, Rigobert Rigaudon, qui est cet agent de l'OFPRA, va au début du spectacle se suicider. Ça, c'est un bon départ pour un spectacle. Ça permet une entrée en matière plutôt joyeuse et détendue. Je dis
Ou
ça,
pas.
mais ou pas. Non, non, je dis ça, mais parce que justement, en fait, on a cherché à ramener beaucoup de légèreté dans ce spectacle, puisque la thématique des réfugiés, c'est une thématique qui nous tient à cœur. On avait envie de parler de ça et d'amener ça sur un plateau pour justement pouvoir provoquer la rencontre. Après, l'idée, c'était pas non plus de fustiger le spectateur. Donc voilà, dans la mise en scène qu'on a proposée, il y a beaucoup de légèreté par moment et dans d'autres moments de gravité. Les deux monologues sont pris en charge par trois comédiens. Et donc là, ce qui va vous être présenté samedi, c'est la première partie qui dure quasiment une heure et qui est donc le monologue de Rigobert Rigaudon. Officier de protection à l'OFPRA.
Trois comédiens pour deux monologues?
Ouais, en fait, ouais, c'est bizarre un petit
C'est
peu comme
bizarre,
concept, c'est contemporain.
hein?
Non, là, l'idée justement, c'est que dans la première partie, donc c'est le monologue de Rigobert Rigaudon qui est pris en charge par trois comédiens. Pourquoi? Parce que tout au long de cette première partie, lui se demande par rapport à cet afflux de réfugiés, par rapport à ses consignes, les consignes qu'il reçoit de son administration, où il est tiraillé entre l'envie d'aider par moment et en même temps cette espèce de traque à la fraude où on cherche donc la faille dans le discours du réfugié pour savoir s'il ment ou s'il ment pas, afin de lui attribuer ou non ce droit d'asile qui est le précieux sésame. Donc lui, il est tiraillé, il se pose toujours la question de « est-ce que j'ai du cœur ?» Ce qui emmène en fait le personnage à sombrer dans une schizophrénie. Et pour représenter cette schizophrénie, pour travailler là-dessus et avoir plusieurs points de vue sur un même texte, on a trouvé cette solution de faire porter ce monologue par trois comédiens, donc deux garçons et une fille. Voilà.
Si je suis bien, du coup, le raisonnement aussi du Volapük, il y aura une rencontre après.
ouais.
avec les spectateurs sur cette pièce-là.
Ouais.
Est-ce que c'est la première fois que vous la jouez ou pas ?
Alors, on a déjà fait des sorties de résidence de ce type-là, mais là, le spectacle a beaucoup, beaucoup changé parce que quelqu'un nous a rejoint dans l'équipe, ce qui a beaucoup changé du coup le travail global, parce qu'on a commencé aussi à travailler avec une chorégraphe qui du coup a amené son expertise au sein du spectacle, parce que là, on a notre créatrice lumière aussi et notre compositeur musical qui nous ont rejoints et qui ont fait vraiment avancer le spectacle. Donc là, on est quand même dans une mouture du spectacle qui est bien avancée. Et donc, on est très curieux voilà, des retours, des avis, des sensations du public sur ce projet.
Et cette pièce, donc ça sera samedi 9 décembre 2017, évidemment, à 19h45. Où ça, j'ai mangé le lieu, je ne l'ai pas noté sur mes fiches.
Alors, en fait, le début, c'est à l'île au Mirabeau.
Ok.
C'est rue Mirabeau. Et en fait, il va y avoir une...
micro-déambulation, voilà. C'est-à-dire qu'on va partir de là-bas, mais c'est plus un moyen d'inviter le public voilà, à venir voir le spectacle qu'autre chose. Mais du coup, il y a une petite intro qui est participative, évidemment, comme tout le spectacle.
Jusqu'au Volapük.
Jusqu'au Volapük, oui, voilà, parce que partir de là-bas...
Ah oui, c'était ça la précision, oui,
ouais,
bien sûr.
Alors, vous partez de là-bas jusqu'au Volapük.
Oui, en fait, c'est juste à côté. Donc,
d'accord.
C'est à 3 minutes à pied.
Vous faites bien de le préciser, parce que je ne connais pas encore...
Et on traverse pas la ville, hein.
Je me disais, ça paraît étrange, mais ok. Eh ben merci à vous deux en tout cas d'être venus nous parler du Volapük et puis aussi du collectif Nose, hein, c'est ça.
Ouais, pour Nord-Ouest, Sud-Est. Mais on a un site internet aussi, un Facebook, faut pas hésiter
à
aller faire un tour.
Voilà, site
nous
internet
aussi.
Facebook, www.levolapuk.org, le site internet du Volapük.
Oui, c'est ça.
Et www.collectifnose.fr, le site internet du collectif Nose.
Et ben voilà, parfait.